Vous écoutez France Culture. Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray. Le génie de l'hédonisme, 8e année, la fabulation freudienne, Sigmund Freud. Aujourd'hui, un pessimisme ontologique radical.
Bonsoir, merci d'être là pour ce cours que je souhaiterais consacrer au pessimisme de Freud, qui a été présenté en vertu des cartes postales dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, comme un grand penseur optimiste, un grand philosophe héritier de la tradition des Lumières du XVIIIe siècle. Et il me semble que cette façon de dire, cette proposition théorique, c'est-à-dire Freud, philosophe, juif, libéral, de gauche, d'une gauche modérée, mais enfin de gauche, féministe, libérateur de la sexualité, partisan de la libération sexuelle au sens large du terme, toutes ces choses-là, effectivement, sont à envisager et à considérer avec précaution, puisque, il me semble, et là on finira l'année avec ça, mais il me semble que le freudo-marxisme a évidemment beaucoup fait pour imposer la pensée de Freud en France, dans un deuxième temps. Le premier temps est le temps historique, on dira le temps d'Apollinaire, du surréalisme, de Sandrart, etc. Mais il y a eu le moment mai 68, qui a été l'occasion de célébrer un certain nombre de maîtres à penser, Marx, Mao, Lénine et quelques autres, et Freud en même temps, qui étaient considérés comme des grands libérateurs. On sait aujourd'hui que tous n'ont pas franchement été des libérateurs. On a fait le travail concernant le communisme, le marxisme-léninisme, le stalinisme. On a fait tout ce travail-là, c'est clair. On n'a pas fait encore le travail avec cette figure de Freud, parce que, et on consacrera l'an prochain à la question du freudo-marxisme, parce qu'il y aura eu Erich Fromm, Wilhelm Reich, Herbert Marcuse, qui ont été des freudo-marxistes, des gens qui ont pensé, et à juste titre, que puisqu'il n'y avait pas d'histoire chez Freud, que Freud n'avait pas le sens de l'histoire, il fallait faire rentrer l'histoire dans la problématique freudienne, et qu'il fallait la faire rentrer sous forme de marxisme. Ceci dit, le marxisme dont on parlera, il sera très vite distingué comme un fascisme rouge par Wilhelm Reich. Donc on verra qu'il y a effectivement des raisons à cette carte postale d'exister, les raisons qui font qu'on le présente comme un libérateur. Ceci dit, quand on lit l'œuvre complète, on découvre des choses qui font froid dans le dos et qui ne montrent pas du tout un libérateur. Il y a une tradition philosophique, elle est classique, elle est celle des Lumières, il me semble qu'elle est connue, elle est aussi historiquement datée, on la connaît. On connaissait Voltaire, on connaît Diderot, Rousseau, ça fait partie, là aussi je dirais, de la carte postale de la pédagogie classique et française. L'éducation nationale nous enseigne que le XVIIIe siècle est le grand siècle des Lumières, et on connaît les philosophes emblématiques et les philosophies emblématiques de la pensée des Lumières. Mais puis il y a une tradition anti-philosophique. Donc quand je parle d'antiphilosophie, je ne renvoie pas aux travaux de La Ruelle, par exemple, et à ceux qui s'en réclament, mais à la tradition historique qui, elle, est contemporaine du XVIIIe siècle. Il y a des philosophes qu'on appelle des antiphilosophes. Donc un antiphilosophe est un philosophe, à l'évidence, comme Montaigne nous dit que c'est proprement philosophique se moquer de la philosophie. Montaigne nous dit « je ne suis pas un philosophe », ce qui veut dire effectivement qu'il est un philosophe, mais pas comme d'aucuns le sont, c'est-à-dire pas comme un philosophe scolastique. Donc, entendons-nous bien, les antiphilosophes sont des philosophes. Mais ce sont des antiphilosophes en tant qu'ils s'opposent aux philosophes que sont les encyclopédistes. Et les philosophes encyclopédistes, vous connaissez leurs idées, une théorie de la nature humaine, de la bonne nature humaine, une théorie du progrès, une théorie du perfectionnement du genre humain, l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain de Condorcet faisant la loi, c'est-à-dire que ça démarre doucement, et puis ça grimpe, et puis vous avez la possibilité, avec une abscisse et une ordonnée, de tracer une espèce de trait qui s'en va toujours vers le haut. Donc la fin de l'histoire, elle nous conduit vers la liberté, vers la libération, vers l'autonomie, vers l'intelligence, vers la réalisation de l'humanité de l'humain. Ce sont les idées de la philosophie des Lumières, qui n'est pas une philosophie athée, qui est une philosophie plutôt déiste. Le déisme, se distinguant de l'athéisme, vous le savez, de cette manière, l'athée dit « Dieu n'existe pas ». Le déiste dit « Dieu existe, bien sûr, mais il ne s'occupe pas des affaires humaines ». Un théiste vous dira, Dieu existe et il s'occupe des affaires humaines. Les antiphilosophes sont des théistes. Ce sont la plupart du temps des chrétiens, des catholiques, qui considèrent qu'il faut se battre contre les encyclopédistes. Et les antiphilosophes du XVIIIe siècle procèdent de manière singulière en faisant des attaques ad hominem. Il y a des attaques de personnages. On a par exemple attaqué Rousseau, la théorie de Rousseau, l'homme naturellement bon et la société qui l'aurait mis dans les fers, eh bien, cette idée qu'à l'origine, vous voyez le discours sur les sciences et les arts, le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, où on vous dit qu'avant la propriété, les hommes s'aimaient d'amour tendre, que c'était parfait, fantastique, merveilleux, formidable, et que c'est le premier qui a inventé la propriété, c'est-à-dire le premier qui a dit « ceci est à moi », qui a créé une clôture, qui finalement a créé l'état de culture, qui lui-même est devenu une espèce de décadence, et c'est la propriété qui est une catastrophe, nous dit Rousseau. Revenons à cet état de nature, et pas d'une manière sauvage, il ne s'agissait pas pour Rousseau d'ensauvager le monde, il s'agissait de lire l'œuvre complète, là encore, avec le contrat social, 1762, de nous dire « on peut, par le contrat social, qui est une proposition épicurienne, le contrat, on peut restituer une liberté, ou instituer, du moins plutôt que restituer, instituer une liberté qui, à sa manière, restituerait l'espèce de liberté sauvage et sans loi qui existait avant la propriété. C'est contre cette pensée-là que les antiphilosophes travaillent et ils ridiculisent Rousseau, qu'on voit par exemple dans une pièce de théâtre qui s'appelle Les Cacouacs. Les Cacouacs, ça vient du grec kakos, qui signifie méchant. On voit d'un seul coup sur scène Rousseau arriver à quatre pattes et proposant que tout le monde se mette à marcher à quatre pattes, etc. Alors évidemment, ça peut être drôle, ça peut effectivement produire un effet dramatique, scénographique, théâtral, ça peut amuser, bien sûr, mais est-ce que pour autant on aura débattu? Est-ce qu'on aura critiqué les idées de Rousseau? Est-ce qu'on aura attaqué Rousseau comme il le conviendrait, c'est-à-dire avec un débat, avec des arguments, avec des idées, avec le respect d'autrui, sans déformer ses thèses? À l'époque, les antiphilosophes ne procèdent pas comme ça. Plutôt la calomnie, plutôt la médisance, plutôt l'insinuation. Cette tradition antiphilosophique, elle suppose un pessimisme radical. Je ne voudrais pas être simpliste en considérant que tout pessimiste est obligatoirement un réactionnaire et que tout optimiste est obligatoirement un progressiste en politique, parce qu'on trouverait des contre-exemples. Mais la loi est plutôt celle-ci. Si vous avez envie de faire un tour dans la pensée pessimiste et que vous allez voir du côté de Schopenhauer, par exemple, eh bien, Schopenhauer, qui est un pessimiste radical, du moins tant qu'il pense, puisqu'on a vu qu'il y avait chez lui, sur le terrain du pragmatisme, une espèce d'optimisme éthique, défend un césarisme très autoritaire, défend la troupe qui tire sur les ouvriers, défend un État solide, soutenu par l'armée, etc. Et si vous allez jusqu'à Cioran, l'auteur d'Histoire et Utopie, mais d'autres ouvrages précisent des compositions, syllogisme de l'amertume, etc., eh bien, vous découvrirez chez lui une genèse fasciste du côté de la garde de fer roumaine, des textes violemment antisémites et pro-hitlériens. Et on a du mal à trouver des philosophes pessimistes qui seraient politiquement des optimistes engagés à gauche. Il faut une certaine dose d'optimisme pour être un penseur de gauche, un homme de gauche, un homme ou une femme de gauche, entendons-nous bien. Et Freud n'échappe pas à cela. Il est un pessimiste et il n'est pas un homme de gauche. La pensée antiphilosophique, elle s'appuie sur cette idée qu'il y aurait un mal radical. Il y a un mal radical, pour utiliser l'expression de Kant, et ce mal radical procède du péché originel. Il y a eu le péché originel, il faut souscrire à cette fable, évidemment, mais il y a eu un péché originel, le premier homme, la première femme, le péché, vous connaissez l'histoire, le fait qu'on ait goûté du fruit défendu qui était le fruit de l'arbre de la connaissance, et une transmission de ce péché originel qui fait que nous, aujourd'hui, en 2010, eh bien, on hérite de ce péché originel, qui est une chose qu'on n'a pas commise. Personne n'a commis directement le péché originel, mais le christianisme nous dit qu'on a hérité de tout cela. Il est ontologique, c'est-à-dire qu'il touche l'être lui-même, il concerne l'être lui-même, il est radical, c'est-à-dire on prend les choses à la racine, il touche la racine, et quoi qu'on fasse, on ne pourra pas s'en défaire. Il y a donc une mauvaise nature humaine. L'homme n'est pas né bon, au contraire de ce que Rousseau dit, mais l'homme est né mauvais, c'est-à-dire qu'il avait la possibilité d'être bon, il a choisi plutôt le mal, et les conséquences sont telles qu'effectivement, fin du paradis et de l'Éden des origines, et puis avènement du monde tel qu'il est, travailler, souffrir, mourir, vieillir, enfanter dans la douleur pour les femmes, etc., etc. Malédiction de la pudeur et autre chose. On ne croit pas au progrès. dans l'antiphilosophie. On considère que les hommes sont ce qu'ils sont et qu'ils le seront tout le temps, toujours. Il n'y a pas d'espoir, que le pire est toujours certain. Vous avez beau faire éducation, culture, transmission, instruction, pédagogie, que vous pouvez faire ce que vous voulez, de toute façon, le mal est radical. Il est à la racine. On ne change pas les hommes qui sont mauvais. C'est l'ontologie de base d'une pensée de droite, pour aller vite, ou disons conservatrice, réactionnaire ou anti-progressiste. Refus du progrès chez les anti-philosophes, donc refus également de ce qu'on pourrait appeler la téléologie. La téléologie, ça suppose le télos, c'est la fin. Donc la téléologie, c'est le discours sur la fin, l'idée que nous irions vers quelque chose qui lui-même serait plus élevé que l'endroit d'où nous parlons. Évidemment, cet endroit dont nous parlons est lui aussi plus élevé que l'endroit sur lequel nous nous trouvions la veille ou l'avant-veille. Donc il y a un progrès, une téléologie, un progrès dans l'histoire, un mouvement qui nous conduit vers une vérité. Le christianisme ne pense pas ça. Le christianisme pense que si vérité il y a, si progrès il y a, c'est dans un arrière-monde, c'est dans un au-delà du monde, c'est dans la vérité d'un paradis qui, lui, n'a rien à voir avec ce monde-ci. Ce monde-ci, il est définitivement le monde du péché, du mal, de la négativité et de la faute. Il y a également ce refus chez les antiphilosophes que la raison puisse être un instrument efficace. C'est la foi qui importe, et la foi ne saurait être entamée par la raison. La raison, elle peut travailler autant qu'on voudra, dit un antiphilosophe, eh bien, la vérité, elle est toujours dans l'acte de foi, dans la croyance. Alors que les philosophes des Lumières considèrent que si on conduit bien sa raison, et d'une certaine manière, on voit la tradition qui mène de Descartes aux encyclopédistes, si on conduit bien sa raison, on peut travailler contre les superstitions. On peut faire de telle sorte qu'on puisse mettre à mal des pensées magiques ou des propositions un peu sommaires et ridicules. L'antiphilosophe nous dira que la raison ne peut rien contre la vérité de la foi, contre la certitude de la foi. Donc voilà ce qui désigne les philosophes, les antiphilosophes du XVIIIe siècle. Vous voyez aussi ce qui désigne les philosophes des Lumières du XVIIIe siècle. Et on voit bien, pour en venir à Freud, qu'il s'inscrit dans cette tradition des antiphilosophes, et pas du tout dans la tradition des philosophes des Lumières. Ça n'est pas un juif éclairé, ça n'est pas un héritier de Condorcet, ça n'est pas un héritier de Rousseau, parce que Freud ne croit pas que la nature humaine soit bonne. D'abord, il n'aime pas la philosophie et les philosophes, dans le sens où on a défini le philosophe comme le penseur emblématique des Lumières et de l'encyclopédie. Il les déteste en long, en large et en travers, en général et en particulier. On a vu en début d'année qu'il avait beaucoup lu Schopenhauer, beaucoup lu Nietzsche, beaucoup emprunté à ces deux-là, qu'il avait aussi traduit Stuart Mill, qu'il avait été un lecteur des philosophes et qu'il avait emprunté à Empédocle son opposition entre la vie et la mort, qui deviendra chez lui pulsion de vie, pulsion de mort. Enfin, donc on sait bien qu'il a un rapport ambigu à la philosophie, qu'il aurait aimé être un philosophe, qu'il a suivi des études de philosophie, et que finalement, il savait qu'il ne gagnerait pas ni de l'argent, ni une réputation, il ne se ferait pas une fortune internationale et planétaire comme il le souhaitait, et que la philosophie ne le permettait pas. Donc, il valait mieux inventer autre chose, et ça donnera un petit peu plus tard, comme vous le savez, la psychanalyse. Il ne croit pas à la bonté naturelle des hommes. Parce que, dit-il dans « Pourquoi la guerre ?», mais aussi dans d'autres ouvrages, autour des années 20, le moi et le ça, en l'occurrence, parce qu'il y a, nous dit-il, la pulsion de mort. Cette pulsion de mort, moi qui ne sacrifie pas beaucoup à un certain nombre de concepts de Freud, et beaucoup de psychanalystes de l'époque ont critiqué Freud sur ce concept de la pulsion de mort, moi j'ai plutôt tendance à croire, effectivement, qu'il existerait une pulsion de mort, et qu'il existerait également une pulsion de vie, sous des formes diverses et multiples. La mort, c'est destruction, c'est les passions tristes, la haine, l'envie, la jalousie, la méchanceté, le ressentiment, etc. Et puis d'autres qui sont plutôt dans le désir de partager, de donner, d'offrir, qui sont dans des logiques de fraternité ou de solidarité. Il y a, dit Freud, qui emprunte ce concept à une femme à l'époque, un principe de nirvana. Et ce principe de nirvana, il est, nous dit-il, dans la matière. Et c'est là que Freud est presque le plus philosophe vitaliste dans son œuvre, et c'est là que je suis presque prêt à accepter ce Freud-là, qui nous dit effectivement qu'il y a biologiquement, dans toute cellule, une aspiration, c'est ce qu'il appelle le principe de nirvana, une aspiration à revenir à l'état d'avant l'être. Ce que veut l'être, c'est de retrouver l'état d'avant l'être, c'est-à-dire le néant. Tout être vise le retour à l'état de néant dont il procède. Et il nous dit, voilà ce que peut signifier la pulsion de mort, c'est-à-dire ce qui nous travaille, ce qui travaille certains et parfois grandement, le principe de nirvana, l'aspiration à détruire l'être, à faire de telle sorte qu'on retrouve de manière assez régressive l'état d'avant l'être qui était l'état du néant. Donc cette pulsion de mort, on n'en finira jamais avec elle, jamais. Il y a une pulsion de mort, elle est chez tout le monde en quantité plus ou moins importante. Et Freud nous dit, quoi qu'on fasse, elle sera là toujours. Voilà pourquoi, on reviendra sur le détail du texte qui s'intitule « Pourquoi la guerre ?», pourquoi Freud n'est pas un pacifiste. Pourquoi Freud pense que la guerre est nécessaire, et que parfois de la guerre accouchent des choses justes, et qu'on obtient par la guerre des choses qu'on n'aurait pas obtenues sinon. Voilà pourquoi il défendra l'idée du chef, du César, en nous disant « le chef, c'est celui qui est capable de faire quelque chose ». De la pulsion de mort qui, sinon, détruirait le peuple. Le peuple est autour du peuple et avec le peuple. Le dictateur, c'est celui qui sculpte le peuple pour en faire quelque chose, alors que sinon, il ne serait rien du tout. Donc, une pensée qui n'est pas démocratique. Une pensée qui est élitiste, qui est aristocratique, et qui oppose la masse, le peuple et le chef entouré d'une aristocratie. Je reviendrai là-dessus, on consacrera un cours spécifiquement à ce sujet-là. Il n'y a donc pas de progrès chez Freud. Il n'y a donc pas de perfectionnement. Il n'est pas question d'envisager qu'une nouvelle société, qu'un changement de société, pourrait générer un homme nouveau. Ce que pense la gauche, ce que pensait le marxisme à l'époque, ce que croyait Marx et ce que surtout Lénine pensait. N'oublions pas que 1917, c'était la révolution bolchévique. Et que Freud est contemporain de ces événements-là. Lui ne croit pas qu'une révolution puisse changer la nature humaine. Là aussi, on développera, parce que je vous montrerai les critiques qu'il fait du marxisme, du communisme, du bolchevisme, et de la gauche en général et en particulier, notamment des sociodémocrates autrichiens. Donc effectivement, il y a une critique de toute idée de progrès. Freud pense qu'on ne changera rien en changeant le mode de production, et qu'une appropriation collective des moyens de production, pour utiliser le vocabulaire de Marx, ne changerait rien à ce qui fait l'homme dans son essence. Il nous dit, oui, faisons ça, et après, il y aura toujours des faibles et des forts, des beaux et des laids, et sur le marché sexuel, par exemple, ce seront toujours les mêmes qui gagneront. Et on fera quoi? On va détruire les gens qui sont performants sur le terrain sexuel, et puis on va garder simplement ceux qui ne le seront pas. Freud nous dit, l'économie n'est pas la vérité, l'histoire n'est pas la vérité, la libido est la vérité. Et la libido, on ne peut rien faire contre elle ou malgré elle. Freud ne croit pas non plus à l'histoire. Et c'est ça qui est assez singulier, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de causalité historique chez Freud. Jamais. Ça a toujours à voir avec une vérité que j'aurais tendance à dire hystérique, qui elle renvoie à l'inconscient, au père, à la mère, à Édipe, au meurtre du père primitif, à la consommation du père qui était le chef de la horde primitive et à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il tourne le dos aux causalités historiques pour adouber des causalités magiques. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de vérité, il y a simplement du symbole, du fantasme, il y a de la fantaisie, du récit mythologique, de la fable métapsychologique. Freud croit plus à des récits mythologiques qu'à des vérités historiques. Si vous arrivez et que vous avez une vie médiocre, mauvaise, parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes obligée de faire plusieurs journées en une, parce que vous êtes exploitée, parce que vous êtes miséreuse, parce que votre mari est une catastrophe sexuelle, parce qu'il vous abuse, parce qu'il vous viole, parce que vous avez peur d'avoir des enfants, parce que vous craignez la maternité, parce que vous savez qu'il n'y a pas de contraception, parce que vous avez peur que les enfants vous entendent dans la pièce d'à côté ou dans la même pièce, eh bien Freud ne dira pas effectivement les conditions d'exercice de votre existence, les conditions existentielles qui sont les vôtres sont problématiques et ça peut générer de la frustration. Et cette frustration, elle peut générer des psychopathologies ou des névroses. Non, ça aura toujours à voir avec la scène primitive d'une espèce de fantasme de séduction du père, Édipe, etc. Il n'y a pas d'histoire chez Freud. Et en ce sens, il est dans la tradition antiphilosophique, et les antiphilosophes considéraient effectivement qu'il n'y avait pas d'histoire, que la théologie était la vérité du monde, que le sacré était plus vrai que le réel, que la divinité était plus importante que les hommes. Et c'est vérifiable, on le verra par la suite dans un certain nombre de développements que je vous proposerai. Il y a un péché originel chez Freud, l'équivalent d'un péché originel, c'est évidemment Édipe. On y revient, c'est-à-dire que quel que soit le problème, j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser cette métaphore, je crois, mais quelle que soit la serrure, la clé est toujours la même. Quel que soit votre problème, singulier, particulier, individuel, parce qu'on est tous des cas particuliers, singuliers, parce qu'on est tous dans un solipsisme, parce qu'on a tous une histoire particulière, parce que même quand on a un frère, le frère n'a pas la même histoire que soi. Sœur n'a pas la même histoire que soi. On n'a pas les mêmes parents. Les parents ne regardent pas de la même manière un aîné, un cadet, un petit, un grand, un garçon, une fille. Et Freud considère qu'il n'y a pas d'histoire individuelle, mais qu'il y a des théories générales qui lui permettent toujours, à partir de son récit mythologique, de comprendre ou d'expliquer les choses comme elles se sont passées. Il sacrifie aussi, et ça on a eu l'occasion de le voir, donc je ne développerai pas, mais c'est une position anti-philosophique, il sacrifie à la numérologie, à la transmission de pensée, à la télépathie. Il écrit des petits gestes de conjuration du sort dans les marges de ses livres, dans le corps de ses correspondances et dans le texte même de l'interprétation du rêve. C'est une pensée quand même plutôt magique, une pensée superstitieuse, et la superstition ne fait pas bon ménage avec une pensée encyclopédique ou une pensée des Lumières. Il y a en plus, politiquement évidemment, mais là je l'ai déjà dit plusieurs fois, donc je reviendrai précisément sur ce genre de dossier, mais des errances politiques, à l'évidence, je vous ai dit, une dédicace à Mussolini, je vous ai dit, une compromission, un soutien au régime austrofasciste du chancelier Dollfuss, je vous ai dit, un travail avec des émissaires nazis de l'Institut Göring pour faire de telle sorte que la psychanalyse puisse continuer à exister sous régime national-socialiste. Et puis, je vous ai dit, ou je vous le redirai, ou je vous le préciserai, l'éviction de Wilhelm Reich, parce qu'il est communiste et que, en plein régime national-socialiste, Freud est encore capable d'ourdir ce genre de complot contre des gens, simplement parce qu'ils ont le souci du peuple, le souci des pauvres, le souci du prolétariat, le souci des gens qui se font exploiter par le capitalisme et qui vivent une misère sexuelle qui a à voir, nous dit Wilhelm Reich, avec les conditions historiques dans lesquelles les gens vivent. Conclusion sur ce sujet-là, effectivement, le freudisme, et j'entends pour le coup la pensée de Freud, elle est au minimum conservatrice, sinon réactionnaire. On dira conservatrice, de droite n'aurait pas grand sens, mais enfin, vous voyez ce que ça peut signifier. Effectivement, elle est anti-progressiste. Elle est évidemment anti-communiste, anti-marxiste, anti-bolchevique, anti-sociodémocrate. Elle est anti tous ceux qui pensent qu'effectivement, la condition ouvrière mériterait qu'on s'en soucie et qu'on modifie également les conditions d'existence dans la Vienne de l'époque et ailleurs. De 1922, l'arrivée de Mussolini au pouvoir, jusqu'à sa mort, Freud n'écrira jamais aucune critique du fascisme mussolinien. C'est-à-dire que vous avez quand même à peu près 1000 pages publiées, un sixième de l'œuvre, vous avez 1000 pages publiées par Freud, et vous ne trouverez rien qui soit critique à l'endroit du fascisme de Mussolini. Vous ne trouverez rien entre 1933 et sa mort qui soit critique à l'endroit du national-socialisme. Alors on pourrait dire, après tout, il n'a pas de souci, et vous venez de le dire vous-même, il n'a pas de souci de l'histoire, pourquoi est-ce qu'il parlerait du fascisme ? Pourquoi est-ce qu'il parlerait du national-socialisme ? Eh bien, il pourrait en parler parce qu'il parle du bolchevisme, parce qu'il parle du communisme, parce qu'il parle de l'expérience russe, et que là, il ne fait pas silence. Donc, pas de critique du capitalisme, pas de critique du fascisme, pas de critique du national-socialisme, mais un anti-marxisme plusieurs fois réitéré dans Malaise dans la civilisation et dans L'avenir d'une illusion. Le nom d'Hitler n'apparaît jamais dans ce que Freud publiera de 1933 jusqu'à sa mort. Il faut, pour pouvoir disposer d'un jugement sur ce sujet, lire l'œuvre complète, parce qu'il n'y a pas de texte dans lequel les choses seraient clairement dites. Il n'y a pas un texte qui soit politique chez Freud. Donc effectivement, il faut lire tout Freud pour pouvoir ramasser ça et là un certain nombre d'informations et les mettre en relation. D'où l'intérêt de faire le travail que je vous propose, enfin que j'ai fait pour vous, pour nous, c'est-à-dire de dire, mais voilà, quand on a fait des fiches bien faites et que vous avez des entrées bien faites, quand vous croisez toutes ces cartes-là, considérations sur Marx, sur le fascisme, etc., vous découvrez une politique de Freud et vous verrez ce qu'on a dit de la politique de Freud, c'est assez sidérant. Un juif libéral, mais on a encore fait mieux que ça. Paul Laurent Assoun en fait un philosophe anarchiste. Freud, philosophe anarchiste, on aura tout vu. Mais donc, silence sur ce sujet-là, mais silence aussi sur d'autres questions, parce que quand vous procédez à des prélèvements, vous pouvez toujours faire dire à des textes qu'ils ne disent pas. Par exemple, une fois, il regrette la répression sexuelle, il considère qu'effectivement, la civilisation se construit sur la répression sexuelle, il trouve que c'est assez catastrophique, parce qu'il nous dit que c'est toujours ce qui justifiera les névroses. la répression de la libido, nécessaire à la construction d'une civilisation, elle va générer des frustrations qui elles-mêmes seront à l'origine des névroses. Donc on a envie de dire, ben alors, travaillons à la libération sexuelle. Et lui, il dit, ben non. On va essayer de voir pourquoi et comment il s'y prend, parce qu'en même temps, ailleurs, vous voyez qu'il est critique à l'endroit de ceux qui vous disent qu'on devrait travailler à la libération sexuelle. Alors vous dites, mais d'une part, il nous dit la répression sexuelle est catastrophique, elle produit des névroses, et puis ailleurs, il dit, mais les gens qui veulent supprimer la répression sexuelle se trompent. Vous verrez à la fin pourquoi. Il s'agit de défendre sa propre boutique, parce que quand vous tenez ce discours qui paraît contradictoire, il y aura finalement une seule solution. Si vous ne touchez pas à la répression sexuelle, si vous n'êtes pas dans des logiques politiques, eh bien vous fabriquez des névrosés, et le névrosé, c'est évidemment un client potentiel pour le divan. Par exemple, vous trouvez des textes dans lesquels il critique puissamment la religion. Il y a un athéisme qui est indéniable chez Freud. Pas de Dieu. Dieu est une fiction. Dieu est une illusion. Mais en même temps, plus tard, il nous dira que, bah, finalement, l'affaiblissement des religions, qui est constatable à son époque, elle est la cause d'une recrudescence de pathologies mentales. Alors on se dit, mais la religion n'est pas une bonne chose, mais en même temps, quand il y a de la religion, les pathologies mentales sont moins importantes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la religion serait l'occasion d'éviter la pathologie mentale? Donc, effectivement, il y a des problèmes quand on lit l'œuvre complète de Freud, parce que, en même temps, on peut le comprendre. Quand on écrit 6000 pages, on a le droit de temps en temps, quand on n'aura pas été assez précis, concret, ou qu'on n'aura pas développé précisément, de dire deux choses qui peuvent paraître contradictoires, à charge pour le lecteur de faire le travail nécessaire qui lui permettra de comprendre pourquoi une chose est dite, pourquoi une autre chose est dite, et pourquoi ces deux choses qui paraissent contradictoires, elles ne sont sûrement pas contradictoires, mais qu'elles procèdent d'une démarche tout à fait particulière. La démarche, je vous dis, elle est extrêmement simple. Quand vous ramassez la totalité de ces pensées-là, vous avez une première idée. Toutes les civilisations se constituent par la répression des instincts, première chose. Deuxième chose, Freud déplore ça, déplore cet état de fait, parce qu'il nous dit que c'est la cause des névroses. Troisième chose, il aimerait bien que ça puisse être autre chose, ou autrement, bien sûr, mais conclusion, il nous dit c'est un vœu pieux, ça n'est pas possible, ça n'est pas pensable, ce sera toujours comme ça. Donc, eh bien, finalement, la psychanalyse, elle est là pour faire de telle sorte que les gens puissent régler leurs propres problèmes. On ne change pas la société, on ne touche pas à la société, simplement, on touche aux gens, on s'arrange avec les gens. On les allonge sur un divan et on essaie de faire de telle sorte qu'ils puissent trouver leur place dans une civilisation qui vit elle-même de la répression sexuelle. Le problème avec Freud, c'est que, je vous le disais tout à l'heure, il est dans la négation de l'histoire et qu'il essentialise la nature humaine. C'est-à-dire que pour lui, les hommes ne sont pas dans une histoire particulière, dans une géographie particulière. Les hommes sont toujours dans le même monde depuis toujours. On peut dire, mais attendez, c'est pas la même chose d'être une femme au Moyen-Âge. C'est pas la même chose d'être une femme en France et puis d'être une femme aujourd'hui, en 2010. Les choses ne sont pas les mêmes. Parce que l'histoire a changé. On peut dire, mais dans la géographie aussi, il y a des déterminismes. C'est pas la même chose d'être une femme ici, tout de suite en France, et puis d'être une femme au Bénin, ou en Chine, ou dans d'autres endroits où il est moins facile d'être une femme. Donc l'histoire, ça existe. La géographie, ça existe. Pour Freud, ça n'existe pas. Il nous le dit. Et si vous lisez « Totem et tabou », vous avez une démonstration claire et évidente de ce genre de choses. Il nous dit « Pour savoir ce qu'est l'homme, il faut, en général, dans l'absolu, il faut aller voir ce qu'est le sauvage, qui lui-même nous signifiera ce qu'est le névrosé. » Donc vous avez une espèce de signe d'équivalence. Les hommes sont ce qu'ils sont depuis toujours et depuis le début de l'humanité. L'homme primitif, c'est l'homme névrosé, c'est l'homme normal, c'est la même chose. Donc on est dans l'essentialisation de la nature humaine qui nous fait dire qu'effectivement le pire est toujours certain, que de toute façon il en est ainsi depuis le début de l'humanité et jusqu'à la fin de l'humanité, les hommes ne changeront pas ce qu'ils ont vécu une fois, la horde primitive, le père qui possédait la totalité des femelles, les enfants jaloux du fait que le père avait le monopole des femmes, le meurtre du père, la destruction du père et l'espèce de regret d'avoir tué le père, la consommation du corps du père, puisque vous avez un banquet cannibale, les enfants qui tuent leur père mangent leur propre père, et après sont dans l'origine de la naissance de la loi, puisqu'ils regrettent un petit peu ce qu'ils ont fait, et on a la naissance de la loi, de la société, de la civilisation, etc. Ce récit, nous dit Freud, il est vrai. Il a eu lieu. Il a eu lieu, et comme le péché originel, nous en sommes toujours porteurs. Donc pas question, évidemment, qu'on puisse être dans une logique historique. Si vous avez des problèmes de nature psychopathologique, Freud vous dira ça a à voir avec ce banquet primitif avec l'histoire d'Édipe, avec l'histoire de l'accoucherie des enfants avec leur père ou leur mère, etc. Mais ça n'a pas à voir du tout avec le fait que vous puissiez être ouvrier, miséreux, pauvre, sans argent, démuni. Ça n'a aucun sens, dit Freud, aucun sens de se soucier de ce genre de conditions. La vérité d'un être, elle est dans la mythologie, elle est dans la fable, elle est dans le récit des origines, elle est dans le récit fantasmatique, elle n'est pas dans la vérité historique. Que faire avec cette économie libidinale, avec cette libido qui est la nôtre? Freud nous dit cette libido, elle est hédoniste. Et il part de ça. A priori, notre libido veut la satisfaction, elle veut donc la jouissance. Les thèses de Freud, je vous l'ai dit en début d'année, elles doivent beaucoup à Nietzsche, et toute cette théorie de la civilisation construite avec la répression des instincts sexuels, elle est très explicitement dans la généalogie de la morale de Nietzsche. Il faudrait montrer comment s'articule la relation entre Dionysos et Apollon. Dionysos, dieu de la vigne, dieu de la danse, dieu de la musique, dieu du chant, dieu de la poésie, et puis Apollon, dieu de l'ordre, de la mesure, etc. Dionysos, c'est notre état naturel. Apollon, c'est l'ordre culturel. Nous sommes naturellement dionysiens et la civilisation nous oblige à être apolliniens. Il faut mettre de l'ordre dans nos désirs. Freud nous dit l'inconscient ou le ça, souvenez-vous, c'est sensiblement la même chose. Il nous dit que l'inconscient est une. Enfin, que les topiques. Non, il nous dit aussi que l'inconscient est une allégorie. Et les topiques sont des occasions pour signifier l'allégorie. Et les topiques, souvenez-vous, inconscient, préconscient, conscient, pour la première topique. Et la deuxième topique, ça, moi et sur moi. Donc il nous dit l'inconscient et le ça, après l'équivalent quand on passe d'une topique à l'autre, eh bien, veulent la satisfaction du flux pulsionnel. Nous avons des désirs et nous cherchons à satisfaire ces désirs. Naturellement, c'est notre état. Nous voulons jouir et jubiler. C'est ce que veut la libido. En revanche, la société, elle, nous contraint à l'idéal ascétique. La société, elle ne veut pas. Freud écrit « Les hommes aspirent au bonheur, ils veulent devenir heureux et le rester ». Donc nous en sommes tous là, la mécanique elle est hédoniste. L'hédonisme, on peut dire, et là je cite à nouveau Malaise dans la civilisation, c'est une phrase de Freud, on notera que c'est simplement le programme du principe de plaisir qui pose la finalité de la vie. La vie veut le plaisir, mais la civilisation ne veut pas le plaisir. Comment est-ce qu'on arrange ces choses-là, puisque le principe de plaisir ne peut pas faire la loi? C'est le principe de réalité qui fait la loi. Le principe de plaisir, il est manifeste chez les enfants. Le petit garçon, la petite fille veulent tout, tout de suite, immédiatement. Ils ne savent pas ce qu'est le renoncement. Ils ne savent pas ce que c'est que de ne pas avoir le bonbon qu'ils convoitent, le chocolat dont ils ont envie ou le jouet auquel ils aspirent. Ils veulent tout, tout de suite. Le plaisir doit être la réalité. Et la civilisation vous dit non. Il faut savoir renoncer à son plaisir ou différer son propre plaisir parce qu'il y a de la réalité. Les parents sont obligés d'expliquer que non, il y a trop de sucre dans les bonbons, qu'on vient de manger, qu'on va manger, que les jouets ça coûte cher, qu'il y en a déjà eu beaucoup, que celui-ci n'est pas possible, qu'on n'a pas l'argent pour l'acheter ou ce genre de choses. C'est-à-dire que la pédagogie, elle est toujours une pédagogie du principe de réalité et elle est toujours une pédagogie de la castration du principe de plaisir, de l'empêchement. Pour éviter un mot freudien, de l'empêchement du principe de plaisir. L'éducation, c'est essentiellement le renoncement, le sacrifice, la privation, l'abnégation, donc la frustration. C'est bien qu'éduquer, c'est frustrer. Tout s'oppose au principe de plaisir, à la domination du principe de plaisir, et Freud nous dit qu'il y a quelque chose de paradoxal à vouloir le plaisir et à voir que le plaisir n'est pas possible ou qu'il n'est pas pensable. Il nous dit « quand le plaisir existe, il est bref et ne dure pas ». Si le plaisir devait durer, nous dit-il, ça deviendrait une souffrance. Le propre de la jubilation, c'est son caractère éphémère, sa nature fugace. Si plaisir il y a, c'est brièvement, rarement, de temps en temps. C'est la nature du plaisir, nous dit Freud. Dès qu'il y a du plaisir, dès qu'il y a désir et qu'il y a plaisir, c'est-à-dire dès qu'il y a résolution du désir dans le plaisir, il y a bien vite le retour du désir. C'est un éternel retour. C'est une espèce de puits sans fond. Freud nous dit ce qui est notre jouissance, c'est moins le plaisir en tant que tel que le plaisir dans sa relation avec le déplaisir. C'est le contraste entre déplaisir et plaisir qui est pour nous l'occasion d'une jubilation. C'est-à-dire qu'on est malheureux dans la douleur, dans la souffrance ou dans la souffrance de ne pas avoir de plaisir. Et quand le plaisir arrive, eh bien c'est l'écart qui existe entre cette jubilation et l'absence de jubilation qui aura précédé, qui est l'occasion du plaisir. Notre capacité au plaisir est limitée. Notre constitution physiologique ne le permet pas. Freud nous dit qu'un plaisir ne peut pas durer longtemps. Il fait savoir que si un orgasme devait durer des heures, il nous tuerait. Il nous dit que la souffrance est plus facile également et que, de fait, il a raison, que c'est plus fréquent, c'est plus durable, qu'elle est plus longtemps capable de nous abîmer. Et que le plaisir est souvent bref, mais que la souffrance est souvent longue, et qu'elle est souvent durable, on ne peut pas forcément lui donner tort. Il nous dit qu'elle arrive de partout, cette douleur, cette souffrance, mais trois sources sont repérables. Il nous dit qu'elle vient du corps, qui va vers sa déchéance, sa destruction, sa disparition. On est inscrit dans le temps, c'est l'entropie qui nous guette, c'est-à-dire qu'effectivement, vivre, c'est vieillir, et vieillir, c'est s'amoindrir, et c'est aller vers la mort, donc ça, c'est une vérité. Elle vient également, cette souffrance, du monde extérieur, riche en agressions diverses, il n'a pas tort. Elle vient également, troisième cause, nous dit-il, de nos relations avec autrui. Ça aussi, c'est une évidence. Donc, nous-mêmes, les autres, le monde. C'est un petit peu ce qu'il faut retenir de Freud, c'est-à-dire que le mal est là en permanence. La souffrance, c'est là en permanence. La douleur, c'est là tout le temps en permanence. L'exception. C'est la jouissance, c'est la jubilation, c'est l'hédonisme, c'est le plaisir. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un maximum de plaisir dans une civilisation qui fait tout pour qu'on en ait un minimum ? Le pessimisme radical de Freud est manifeste dans un long développement qu'il donne dans « Malaise dans la civilisation » et qui est consacré aux techniques de l'art de vivre. C'est une expression de Freud, les techniques de l'art de vivre. Il nous dit... Voilà comment on s'y prend la plupart du temps pour avoir de la jouissance ou de la jubilation. Et voilà ce que sont les stratégies pour ne pas être trop malheureux, les stratégies donc qui permettent d'être un peu heureux. Mais à chaque fois qu'il nous donne un truc, il le pondère, il le modère, il nous dit que ça ne marche pas, que de toute façon c'est une impasse, que ça ne va pas. Donc je vais vous donner les uns après les autres les moments du développement freudien concernant les techniques de l'art de vivre. Il nous dit on peut par exemple satisfaire tous ses besoins sans restriction. Mais évidemment, c'est le plus tentant, c'est ce vers quoi on est plutôt porté, a priori, mais c'est également le plus coûteux. On le paye cher. Et les épicuriens le font savoir. Effectivement, il y a parfois du plaisir à renoncer à un plaisir, et parfois un plaisir plus grand à avoir renoncé à un plaisir, parce qu'on sait que ce plaisir, on l'aurait payé d'un des plaisirs. Donc on peut imaginer effectivement que la satisfaction de tous les besoins sans restriction n'est pas forcément la chose la plus évidente vers quoi il faut nous tourner. On peut aussi s'isoler du monde, nous dit-il. Se couper du monde, c'est bien, mais ça ne peut pas être le but d'une vie. On ne peut pas considérer qu'on pourrait vivre dans le monde sans le monde ou qu'on pourrait vivre dans le monde à l'écart du monde et que le but d'une vie, ce serait de se priver d'une partie de la vie. Ça ne peut pas être une solution non plus. On peut investir dans le prométhéisme. Le prométhéisme, c'est le projet de Prométhée, qui est un projet qui, dans sa forme moderne, se trouve chez Descartes, qui lui nous dit qu'il faut se rendre comme maître et possesseur de la nature. On peut vouloir aussi le bonheur de tous, nous dit-il. Mais c'est un idéal impossible à atteindre parce qu'il y aura toujours plus d'insatisfaits que de satisfaits. On peut également s'adonner à des substances hallucinogènes. Et Freud sait de quoi il parle, une dizaine d'années cocaïnomane. Donc voilà, il a été tabagique toute son existence. Il nous dit sensations émoussées, destruction du corps, énergie gaspillée, donc ce n'est pas non plus une solution. On peut éteindre ses désirs. Ça, en fait, ce sont les sagesses orientales. Si vous allez voir du côté du bouddhisme, de l'hindouisme, on vous fait savoir que si vous renoncez à vos désirs, si vous éteignez vos désirs, alors, pour le coup, vous ne serez pas travaillé par eux et vous aurez une espèce de sérénité, l'ataraxie des épicuriens, si vous voulez, une espèce de sérénité et qui pourrait, après tout, vous donner du bonheur ou du plaisir. Mais mourir de son vivant ne peut pas être le but de la vie. On peut également domestiquer le principe de plaisir systématiquement. S'être tellement bien dressé, si vous voulez, que dès qu'arriverait quelque chose qui ressemblerait à du plaisir, on soit finalement produit pour ou formaté pour que finalement on passe à côté de ce plaisir-là, qu'on ait assez éteint en soi le désir pour n'être plus capable d'un plaisir qui serait douloureux et qui reviendrait. Simplement, Freud nous dit que c'est moins intéressant de triompher d'une passion dominée que de pouvoir jubiler d'une passion sauvage. Et il n'a pas forcément tort. Il nous dit qu'on peut également déplacer sa libido sur d'autres objets. C'est le propre, souvenez-vous, on en a parlé, de la sublimation. La sublimation est la possibilité de détourner une énergie sexuelle sur des objets qui pourront être des objets esthétiques. Mais la sublimation, ça ne marchait pas tout le temps, nous dit Freud lui-même. Il sait probablement de quoi il parle. Il nous dit que même quand on est capable de sublimer, eh bien, c'est pas forcément définitif. Ça veut dire qu'en gros, vous pouvez sublimer dans la psychanalyse, qu'il vous reste quand même un peu de libido qui vous titille. C'est un peu ce qu'il faut comprendre et lire entre les lignes. On peut également s'engouffrer dans les illusions et perdre le contact avec la réalité. C'est-à-dire, pour le coup, vivre en esthète. Mais c'est toujours déceptif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas consacrer une vie entière à la fantaisie. On peut investir à fond dans le domaine du travail, nous dit-il, parce que dans le travail, il y a beaucoup de composantes libidinales, le narcissisme, l'agressivité, l'érotisme. Donc effectivement, on peut investir dans le travail parce qu'on sera chef, responsable, parce qu'on a envie de, je sais pas quoi, de produire des beaux objets, parce qu'on a envie d'être content de la pièce qu'on aura fabriquée, parce qu'on sera content de... Enfin voilà, on peut trouver des satisfactions. On peut être content parce qu'effectivement, on peut rendre la vie impossible à ses subordonnés. On peut être content parce qu'on est admiré, parce qu'on est célébré, parce qu'on est... etc. Freud nous dit donc beaucoup de gens investissent dans le travail et sont capables de trouver du plaisir dans cette activité. Mais, nous dit-il, peu de gens sont capables d'être franchement satisfaits parce que le travail, il est plutôt, la plupart du temps, négatif. Il est nécessaire, il est obligatoire. On ne travaille pas parce qu'on aime son travail, mais parce qu'il faut de l'argent, parce qu'on a un loyer à payer, parce qu'il y a de la nourriture à acheter, parce qu'il faut payer l'éducation des enfants. Et on est vraiment rarement épanoui dans un travail. Très peu peuvent dire que le travail est le lieu de leur épanouissement. Ça se fait donc aussi au profit, la plupart du temps, d'une névrose. On peut aussi se réfugier dans la vie amoureuse et puis activer les régressions qui nous auront donné du plaisir quand on était enfant. On se souvient qu'on aura joui d'avoir été aimé par son père, par sa mère, par une petite copine, par un petit copain, par qui vous voudrez, mais vous pouvez retrouver le chemin de cette époque où tout était radieux, joyeux, heureux, et puis demander à l'amour une satisfaction. Mais Freud nous dit, attention, l'amour est une souffrance, et pas par hasard un lecteur du monde comme volonté, comme représentation de Schopenhauer. L'amour, nous dit-il, c'est souvent le renoncement à soi. C'est l'abandon de son propre destin dans les mains d'un tiers qui, pour le coup, peut faire de nous ce qu'il veut. Et c'est plutôt producteur de nouvelles vulnérabilités. Vous êtes à deux, eh bien, à deux, vous avez les vulnérabilités du tiers. C'est-à-dire les douleurs de l'autre, les souffrances de l'autre sont aussi vos souffrances. Il nous dit on peut également faire une famille. Mais ce que je disais pour le couple peut être élargi à la famille. C'est-à-dire qu'on peut considérer que quand vous avez des enfants, eh bien, la fragilité de vos enfants devient aussi votre fragilité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des craintes sur l'éducation de vos enfants, sur la santé de vos enfants, sur le destin ou l'avenir de vos enfants, et ça peut entraver aussi votre propre existence. On peut aussi aimer l'humanité, nous dit Freud. Mais d'une certaine manière, aimer tout le monde, c'est n'aimer personne. Vouloir changer le monde parce qu'on aimerait tout le monde et que voilà, ce n'est pas non plus une hypothèse. Et puis, nous dit-il, les hommes ne sont pas tous dignes d'être aimés. Les hommes ne sont pas tous dignes d'être aimés. Il faudrait voir, c'est un autre sujet, mais il faudrait voir aussi comment cette pensée peut fonctionner comme une espèce d'impératif catégorique de toute pensée réactionnaire. Voir comment ça fonctionne chez Demestre, chez Bonald, chez Blanc de Saint-Bonnet. Enfin, c'est toute cette pensée réactionnaire, conservatrice, contre-révolutionnaire du XIXe siècle qui considère effectivement que l'amour de l'humanité n'est pas défendable, qu'il faut aimer de manière particulière, pas n'importe qui, pas n'importe quoi, pas n'importe comment, mais pas tout le monde. On peut également vouloir refaire le monde, nous dit Freud, mais ça n'est pas imaginable. On peut bien sûr envisager une civilisation moins frustrante, moins répressive, moins castratrice, moins problématique pour le désir et le plaisir. On peut se dire effectivement qu'il y a des choses à changer dans une société pour qu'on puisse améliorer le statut de la libido. Mais Freud fait savoir que le risque est grand chez l'utopiste qui voudrait ce genre de choses. On s'attaque à trop gros. On ne peut pas changer la société, dit Freud, et c'est une utopie que de vouloir changer la société, notamment dans un sens hédoniste. Vouloir une société ou une civilisation dans laquelle les gens seraient plus heureux, seraient plus à même de vivre de manière épanouie leur sexualité, c'est une utopie. Et sur cette utopie, on risque de se casser les dents. Voilà plus d'une dizaine de possibilités examinées par Freud. Il nous dit voilà tout ce que vous pouvez faire pour être le moins malheureux possible, voire le plus heureux possible, pour être un peu heureux. Mais voyez, à chaque fois, on va dans le mur parce que ça n'est pas la solution. Ça n'est jamais la solution. La solution, elle n'est pas dans un autre monde à créer. Et voilà pourquoi il y a une espèce d'antinomie radicale entre Freud et le freudo-marxisme, bien sûr. Mais elle est dans l'arrangement avec ce propre monde. Il y a ce monde, Et il faut composer avec ce monde. La solution, elle est très simple. Et je vous donne une citation. « Le bonheur, dans l'acceptation modérée où il est reconnu comme possible, est un problème d'économie libidinale individuelle. Il n'y a pas ici de conseil qui vaille pour tous. Chacun doit essayer de voir lui-même de quelle façon particulière il peut trouver la béatitude. » Ça veut dire « débrouillez-vous ». Chacun pour soi. C'est-à-dire que vous avez une position antipolitique, d'une certaine manière, c'est-à-dire on ne croit pas, Freud ne croit pas que la politique puisse résoudre ce problème-là, mais cette position antipolitique, elle est politique. C'est une politique que de dire que la politique n'a pas à s'occuper du bonheur des gens, que la politique n'a pas à se soucier du bonheur des gens, mais que le bonheur des gens, c'est une affaire individuelle. Chacun pour sa pomme. C'est la conclusion freudienne, chacun pour sa pomme. On comprend dès lors que vous puissiez trouver de l'intérêt au divan, à la thérapie, à la psychanalyse. Si le monde vous névrose, vous frustre et que vous n'êtes pas heureux, les freudo-marxistes vous diront « changez le monde ». Freud vous dira « venez sur mon divan et on va arranger ça ». Il y a des satisfactions substitutives, nous dit Freud. Et les satisfactions substitutives, c'est-à-dire quand vous avez tout essayé et que rien ne marche ou que vous n'avez rien essayé et que pour le coup vous êtes dans une espèce de douleur ou de souffrance, eh bien vous pouvez fuir dans la maladie. Pensez éminemment dangereuse. Éminemment dangereuse. Cette idée que la maladie serait une espèce de produit de l'inconscient et qu'inconsciemment nous voudrions un cancer, que nous voudrions une crise cardiaque, que nous voudrions je ne sais quel type de maladie, un sida par exemple, c'est assez obscène. Mais ça a produit ses effets longuement, durablement, et beaucoup croient encore aujourd'hui que si vous avez une pathologie particulière, cette pathologie, d'une certaine manière, c'est peut-être un peu l'inconscient qui l'aura déclenchée. C'est tout de même un peu problématique, effectivement, que d'avoir laissé croire que la fuite dans la maladie était la plupart du temps une solution que l'inconscient proposait quand il n'y avait pas d'autre solution. Il y a également une autre solution, satisfaction substitutive, hein, l'engagement dans une religion, nous dit Freud. Là, pour le coup, c'est une métaphysique clé en main. Devenez chrétien, ou devenez bouddhiste, ou devenez musulman, et là, pas besoin de penser, on pense pour vous. Pas besoin de réfléchir, on réfléchit pour vous, on vous dit ce qu'il faut faire, pas faire, manger, pas manger, comment il faut vous habiller, comment il faut vous comporter, comment il faut, etc. Enfin, dans le moindre détail. Donc ça peut être une solution, dit Freud. Puis dernière solution, alors ça c'est la toxicité la plus grande, nous dit-il, la psychose. Là pour le coup, on rentre dans ce qu'on pourrait appeler la folie au sens large du terme. Il y a une vraie critique chez Freud de la libération sexuelle. Le freudo-marxisme et mai 68 ont rendu Freud désirable ou aimable, en le présentant comme une espèce de libérateur de la sexualité, en lui disant « heureusement qu'il est arrivé là, parce que les communautés, l'amour libre, le préservatif, puis l'avortement, la contraception, enfin cette espèce de révolution sexuelle n'a été possible que parce que Freud a eu lieu ». Non, tout ça n'a été possible que parce que le freudo-marxisme a eu lieu, et on a confondu le freudo-marxisme avec Freud. Je vous renvoie aux leçons sur l'introduction à la psychanalyse, nouvelle traduction du titre qui anciennement disait « Introduction à la psychanalyse ». Freud dit « Il n'est pas question que le conseil de vivre pleinement sa sexualité puisse jouer un rôle dans la thérapie analytique ». Chose est clairement dite, pas question de vivre pleinement sa sexualité. Voilà. Une libération sexuelle ne change rien, de toute façon elle est impossible. Et je voudrais vous lire un assez long texte, extrait d'un article qui s'appelle « Du rabaissement généralisé dans la vie amoureuse ». Freud dit « Il est facile de constater que la valeur psychique du besoin amoureux baisse dès que la satisfaction lui est rendue aisée. Il faut un obstacle pour pousser la libido vers le haut, et là où les résistances naturelles contre la satisfaction ne suffisent pas, les êtres humains, de tout temps, en ont intercalé de conventionnels pour pouvoir jouir de l'amour. Cela vaut pour les individus comme pour les peuples. » Aux époques où la satisfaction amoureuse ne rencontrait aucune difficulté, comme par exemple lors du déclin de la culture antique, l'amour devint sans valeur, la vie vide, et il fallut des formations réactionnelles fortes pour rétablir les valeurs affectives indispensables. Dans ce contexte, on peut affirmer que le courant ascétique du christianisme a créé pour l'amour des valorisations psychiques que l'antiquité païenne ne put jamais lui conférer. Il atteignit sa plus haute significativité chez les moines ascétiques, dont la vie était presque uniquement remplie par le combat contre la tentation libidinale. Donc vous avez bien vu un éloge du christianisme en tant qu'il est le promoteur de l'idéal ascétique. Freud nous fait savoir effectivement que la machine chrétienne, qui est une belle machine à produire de la castration, elle est nécessaire. et qu'à chaque fois qu'on aura voulu libérer, libéraliser, eh bien, on aura produit des problèmes. On aura inventé des problèmes plutôt que trouver des solutions. Donc il n'est pas question qu'une sexualité soit simple et facile. Il est même question de restaurer l'interdit, de légitimer l'interdit. Vieux discours qui fait qu'effectivement, tous les anciens lacaniens devenus défenseurs de Sade, aujourd'hui chrétiens et auteurs de livres qui font l'éloge de saint Paul, vous font l'éloge de l'interdit, de la loi. Voilà pourquoi ils aiment tant Lacan, de la loi comme constitutive du plaisir. Sous-entendu, ce qui vous sera interdit vous procurera des grandes satisfactions quand vous le transgresserez. Comme si en fait la jouissance était dans la transgression et comme si le plaisir exigeait la loi sans laquelle la transgression n'est pas possible. Sous-entendu, interdisez-moi les choses, comme ça quand je pourrai les faire, ce sera nettement plus jouissif. On peut aussi voir des choses beaucoup plus simples, beaucoup moins compliquées, et considérer effectivement que si on simplifiait le tout, on aurait probablement moins de névrose que dans le cas de la loi nécessaire pour la transgression qui, elle, est jouissive. Freud pense que l'étau peut se desserrer un peu, mais il considère qu'il n'est pas question d'en finir avec l'étau. Donc la solution, elle est très simple, et on la trouve dans une lettre à Fliss, et Freud dit « mais invente-nous un moyen contraceptif ». Mais effectivement, à l'époque, la crainte qu'une relation sexuelle puisse être suivie d'une grossesse et que les grossesses soient perçues comme des malédictions, ça pouvait effectivement générer des frustrations. Et Freud fait savoir, alors qu'on sait que sa libido était un peu défaillante et que ce n'était pas un cadeau au lit, qu'effectivement, quand en plus vous craignez d'engrosser votre épouse et que vous avez déjà pas mal d'enfants, ça puisse effectivement ne pas simplifier les choses. Il y a un petit texte de lui qui s'appelle « La morale sexuelle civilisée et la nervosité moderne » qui date de mars 1908, qui est un texte à partir duquel on peut prélever tout ce qui deviendra le freudomarxisme. Parce qu'effectivement, il y a des moments très critiques de Freud à l'endroit de la monogamie. Il nous dit que le couple monogamique, un homme pour une femme pour un homme, le tout enfermé dans un mariage, et ce pour une vie entière, eh bien, ça oblige au mensonge, à l'hypocrisie. Il nous dit que la répression sexuelle génère des troubles particuliers, des troubles sexuels, des perversions, nous dit-il, et l'inversion. On reviendra sur ce sujet-là, l'inversion, c'est l'homosexualité. Et vous verrez que Freud développe une théorie homophobe, nous explique que les homosexuels sont des gens qui ne sont pas finis, d'une certaine manière, et qu'ils n'ont pas été capables de trouver le bon objet sexuel, le bon objet d'investissement sexuel, qu'ils se sont arrêtés en cours de route, et que l'objet d'investissement sexuel de l'homosexuel, c'est lui-même, et que le narcissisme a à voir avec la généalogie de l'homosexualité chez l'homosexuel. On reviendra là-dessus, je dis ça juste en passant, mais simplement pour dire que Freud n'est pas un libérateur de la sexualité, Freud n'est pas un philosophe féministe, Freud n'est pas un défenseur des minorités sexuelles. Il nous dit que le mariage éteint le désir. Bon, ça, c'est pas besoin d'avoir réfléchi longtemps pour obtenir une certitude admirable de ce type-là. Il nous dit que la maternité détourne la libido du couple vers l'enfant. Ça, c'est pareil. Ça paraît plutôt du bon sens que de la découverte géniale. Il nous dit que là où la frustration fait la loi, on a la masturbation, le bordel et l'adultère. Il a raison sur les trois sujets. Et il nous dit que les femmes, quant à elles, elles se réfugient dans la frigidité et dans la névrose. Et puis, dans un petit texte qui s'appelle « Les résistances contre la psychanalyse », un texte daté de 1925, il propose, et enfin on découvre la solution de Freud, il propose d'adoucir le refoulement pulsionnel. Donc la solution, elle n'est pas politique, vous l'avez vu, je vous ai dit qu'elle était dans le chacun pour soi, débrouillez-vous comme vous pourrez. Et Freud nous fait savoir que comme on ne pourra jamais changer la société, ce qu'on peut éventuellement changer, ce sont vos relations à la société. Donc on ne touche pas la société. Donc on est dans le conservatisme politique. En revanche, ce à quoi on peut toucher, c'est à vous, un peu, pour que sur le divan, on puisse arranger quelque chose qui vous permettra de vivre avec, tout de même. Puisque le divan, c'est quand même quelque chose d'important, le divan vit du refoulement exigé par la société. Le divan ne vit que du refoulement exigé par la société. Et donc, à mi-distance, je dirais, du monastère et du bordel, c'est-à-dire de la sexualité tarifée et puis du renoncement total à la sexualité, Freud propose une espèce de juste mesure. Et là, ce sera ma conclusion, parce que finalement, la montagne accouche d'une souris, et vous verrez cet homme présenté comme une espèce de théoricien de la libération sexuelle. Il nous dit, en gros, bah, voyez sur le divan ce qui peut être envisageable. Et il nous dit, voici la phrase, « Le remède contre la nervosité découlant du mariage serait bien plutôt l'infidélité conjugale. » tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on se dit, tout ce travail critique sur la sexualité, toute cette espèce de lucidité sur la répression sexuelle, toute cette proposition de l'étiologie sexuelle des névroses, il nous explique pourquoi il y a des névroses, pourquoi il y a des frustrations, pourquoi il y a des problèmes, pourquoi etc., etc. Et il nous dit, trompez bobonne. Ou bonbon, ça marche aussi pour les hommes, hein, trompez bonbon. Et l'adultère, l'infidélité conjugale, voilà qui est extraordinaire. Pour le coup, il joindra le geste à la parole, il n'y aura pas de contradiction chez Freud sur ce terrain-là. L'infidélité conjugale, il pratiquera ce remède, et il nous dira, en gros, que le divan est bien là pour composer avec cette fameuse hypocrisie libidinale. Merci beaucoup. Donc je vous disais tout à l'heure que le nombre d'analyses de Freud devait à la pensée de Nietzsche, et que tout ce qui concernait la question répression des désirs sexuels, construction d'une civilisation par la répression des désirs sexuels, tout ça se trouvait dans le Nietzsche de la généalogie de la morale. Donc je ne saurais trop vous conseiller de lire ou de relire ou de méditer ce grand livre de Nietzsche. Je vous ai parlé des antiphilosophes. Eh bien, il y a un joli livre de Didier Massot qui s'appelle « Les ennemis des philosophes » et qui est sous-titré « L'antiphilosophie au temps des Lumières » chez Albin Michel, et qui est un très beau livre qui fait vraiment le point sur ce sujet. L'affaire des cacouacs, qui est un petit texte présenté et annoté par Gerhard Stenger sous les auspices de la Société française d'études du XVIIIe siècle, et ça c'est aux publications de l'Université de Saint-Étienne. Ce fameux texte de Kant qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» et puis un texte de Foucault qui s'appelle aussi « Qu'est-ce que les Lumières ?» et qui est une méditation de ce texte « Qu'est-ce que les Lumières ?» Et puis les ouvrages de Freud sur lesquels je me suis appuyé pour ce développement, « Malaise dans la civilisation », toutes les techniques existentielles, toutes les techniques de vie, elles sont dans cet ouvrage, « L'avenir d'une illusion », c'est aussi dans ces deux ouvrages que vous avez les textes les plus violents à l'endroit du communisme, et puis les petits textes, dans les volumes de l'œuvre complète. Volume 11, vous trouverez « Du rabaissement généralisé dans la vie amoureuse ». Volume 8, « La morale sexuelle civilisée et la nervosité moderne ». Volume 17, « Les résistances contre la psychanalyse ». Et puis les textes dans lesquels il est question de la misogynie freudienne, de la phallocratie freudienne, de l'homophobie freudienne, je vous les signalerai aussi. Ce sont également des petits textes qu'on trouve dans l'œuvre complète. Voici pour la bibliographie.
C'était les conférences de l'Université populaire de Michel Onfray. Régisseur son au Centre dramatique national de Normandie, Joël Migne. Prise de son, Benoît Cousin, France Bleu Basse Normandie. Mixage, Pierrick Charles. Réalisation, Véronique Villa. Demain, des questions des auditeurs du Centre dramatique national de Normandie à Michel Onfray.